RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. En ce début d'hiver, nous nous retrouvons pour une chronique pleine de légèreté. En effet, à l'approche des fêtes de fin d'année, quoi de mieux que de parler des traditions qui réchauffent les cœurs tout autour de l'Union européenne et de l'Europe. Pour cela, j'ai avec moi trois invités très spéciaux. Tuan Doan et Christian Rodia, les deux volontaires en service civique de la Maison de l'Europe, et Titouan Fribourg-Blanc, actuellement en stage à la Maison de l'Europe également. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et Christian, tu voulais commencer par nous présenter une certaine tradition.
Alors, petite devinette, qu'est-ce qui arrive en avant sur le Père Noël, qui distribue des friandises, mais peut aussi envoyer le père fouettard si on n'a pas été sage?
On ne sait pas. Est-ce que tu peux nous le dire?
Eh bien, c'est Saint-Nicolas. Et saviez-vous que sa fête ne se limite pas à la Lorraine ou à l'Alsace? En Europe de l'Est, par exemple, c'est une vraie superstar. Alors aujourd'hui, je vous propose un voyage dans l'histoire fascinante de ce personnage légendaire, et dans les traditions qu'il a inspirées à travers toute l'Europe. Marie-Lou, Tuan, Titouan, êtes-vous prêts à plonger dans cette ambiance magique?
Oui.
Alors Saint-Nicolas, c'est avant tout une figure historique. Il s'agit de Nicolas de Myre, un évêque du 4e siècle né en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Il est reconnu pour sa grande générosité et il est devenu le patron des enfants, des marins et des écoliers. Mais ce qui le rend si populaire, c'est surtout une légende assez incroyable de trois enfants ressuscités. Est-ce que vous la connaissez?
C'est celle-là avec le boucher, non?
Exactement. Alors imaginez, trois jeunes enfants égarés trouvent refuge chez un boucher qui, malgré son air bienveillant, va les découper avant de les mettre dans un saloir. 7 ans plus tard, Saint-Nicolas qui passe par là souhaite déguster donc le fameux petit salé qui est composé, comme vous l'avez compris, d'enfants en morceaux. Saint-Nicolas qui connaissait le secret de fabrication de cette viande atypique va commander le plat, mais en réalité il va ressusciter les trois enfants et par la même occasion il va convertir le boucher en père fouettard. Donc une histoire assez sombre, je vous l'accorde, mais qui va renforcer l'image de Saint-Nicolas, de protecteur des enfants.
Mais ce fameux Saint-Nicolas est interprété de manière différente selon les pays.
Et oui, et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir donc la réinterprétation au travers de l'Europe, aux Pays-Bas par exemple. Il devient, excusez mon néerlandais, Sinterklaas, un personnage qui arrive en bateau depuis l'Espagne, qui va refléter en fait le passé maritime du pays. Il est accompagné de ses assistants, donc les Pieten, et distribue des cadeaux aux enfants. En Allemagne, par exemple, la célébration est le 6 décembre et il est connu comme étant le Nikolaustag. Les enfants donc vont mettre leurs bottes devant la porte et selon leur comportement, ils y trouveront soit des friandises, soit une branche en guise d'avertissement. Et aussi en Europe centrale, comme en Pologne ou en République tchèque, Saint-Nicolas y parcourt les rues accompagné d'un ange et d'un diable. Et là aussi, il récompensera les sages, mais le diable aussi, lui, n'hésitera pas à faire la morale justement aux enfants les plus turbulents. Et bien sûr, Saint-Nicolas a laissé une empreinte durable, il est à l'origine de la figure du Père Noël qui a ensuite été exportée par les Néerlandais vers les États-Unis et popularisée sous le nom de Santa Claus. Et vous savez ce qui est aussi fascinant, toujours en lien avec Saint-Nicolas? Eh bien, beaucoup de marchés de Noël en Europe trouvent justement leurs origines dans les célébrations de Saint-Nicolas. C'est le 6 décembre 1294 à Vienne en Autriche qu'aurait eu lieu le premier marché de Noël. Ce jour-là, l'église fêtait donc Saint-Nicolas de Myre et en son honneur, une première fête est organisée. Elle est alors appelée le marché de la Saint-Nicolas. Très vite, le rendez-vous en fait va devenir incontournable et la manifestation va se développer dans chaque ville aux alentours de l'Allemagne qui va se mettre à organiser au 15e siècle son propre marché. Et bien évidemment en France, nous avons aussi notre incontournable marché de Noël. Alors excusez là aussi mon Alsacien, le Christkindlesmarkt de Strasbourg, donc en 1570, qui est l'un des plus anciens marchés de Noël de France. Imaginez-vous donc dans l'ambiance du marché de Noël, avec ses illuminations, son vin chaud pour réchauffer, ses fameux bretzels, rien de mieux pour partager un bon moment convivial. Et voilà, et de manière générale, les marchés de Noël en Europe vont se généraliser, suivant la même idée, avec des illuminations, des stands locaux, certains même avec de la musique, comme à Vienne, où les marchés sont souvent accompagnés de concerts classiques.
C'est incroyable de voir à quel point ces marchés sont plus ou moins différents, et pourtant si universels.
Et oui, et c'est là toute la magie de Noël en Europe, des traditions uniques avec un esprit commun, celui du partage.
En parlant de tradition, connaissez-vous en France une fête ancestrale qui est plutôt célébrée en Suède vers cette période de l'année?
Aucune idée.
Eh bien, Tuan va nous en parler et va nous en dire un peu plus pour connaître cette fameuse tradition.
Bien, je vais vous parler de la Sainte Lucie.
Donc la Sainte Lucie, fête des Lumières suédoises, fait partie intégrante de la culture et occupe une place très importante au sein du folklore de ce pays scandinave. Vieille de 400 ans, cette tradition prend place le 13 décembre et est d'origine chrétienne.
Et pourquoi le 13 décembre en particulier ?
Le 13 décembre, car c'est historiquement le jour le plus court du calendrier julien, utilisé jusqu'au XVIe siècle. La nuit est donc à l'inverse très longue, un terreau fertile pour faire apparaître des esprits maléfiques qui rôdent sur les routes, rendant les sorties très dangereuses ce soir-là. Il fallait donc rester éveillé pour éviter les soucis. Et manger aidait à se réconforter et à faire passer le temps. D'après la légende, une certaine Lucie distribuait des vivres aux chrétiens se cachant dans les catacombes romaines, éclairant leur chemin avec une couronne de chandelles sur la tête. Cet événement commémore le martyr de Lucie de Syracuse, une vierge issue d'une riche et noble famille de Syracuse, qui aurait refusé son amour à un homme qui, fou de rage, lui arrachait les yeux. Petit problème de gestion de la colère, non ? Il est donc dit depuis que Lucie a la capacité de guérir les maladies oculaires. Et depuis, cette fête s'accompagne d'une procession appelée en suédois le Lucitag, réunissant des personnes vêtues de blanc menées par Lucie elle-même. En plus de porter la lumière, le rôle de Lucie est de distribuer des bonbons dans des paniers. En plus de friandises, on y trouve des brioches au safran en forme de S que l'on appelle Lucekat, aussi connu pour les Suédois que les croissants et les pains au chocolat pour nous. Pour éloigner le diable qui craignait la lumière, Jésus eut l'idée de colorer ses pains avec du safran. Les petits pains désormais lumineux effrayèrent ainsi Lucifer. Ces viennoiseries sont souvent accompagnées de petites tasses de glögg, un vin épicé avec des amandes et des raisins secs. Bien que ancrée dans la tradition, Lucie est une cérémonie en permanente évolution. Par exemple, au niveau alimentaire, Lucie distribue désormais de la nourriture alternative végane. Et les chandelles que porte Lucie sur sa tête ont été remplacées par les bougies à piles, pour d'évidentes raisons de sécurité.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les traditions s'adaptent aux évolutions de nos sociétés et ne restent pas figées dans le temps. Bon, continuons les festivités et rapprochons-nous du moment où la fête bat son plein, c'est-à-dire le réveillon de Noël.
Ce repas féerique date de l'époque de Jules César et marque la nuit de Noël. Repartons vers l'Italie où la veille de Noël, dit Vigilia, est un repas spécial pour les Italiens, car la tradition du souper de Noël exclut la viande. Bien que l'idée générale soit de préparer un repas maigre et austère, de nombreuses familles se retrouvent avec un nombre impressionnant de plats, allant même jusqu'à 7 mets différents. À certains endroits, on l'appelle la fête des 7 poissons. Lorsque vient le moment du cenone, le grand dîner du jour de Noël, les types de plats servis varient d'une région à l'autre et comprennent de nombreux mets et desserts savoureux, notamment du panettone, un pain sucré de Milan. En Pologne, le repas du réveillon est aussi très similaire. La veillée de Noël est une occasion à laquelle, une fois par an, on prépare divers plats sans viande. La tradition veut qu'il y en ait 12, parmi lesquels on ne peut manquer le borsch, une soupe de betterave rouge aux raviolis fourrés aux champignons. Chez les Grecs, c'est une toute autre histoire. Il faut protéger les cadeaux des gobelins ou lutins malveillants, autrement appelés les kalikansari, qui jouent aussi un rôle majeur en Grèce pendant la période de Noël. Ils sont connus pour leurs bêtises. Ils se cachent dans les cheminées et ennuient les habitants. C'est pourquoi, à partir du 24 décembre et pendant les 12 nuits suivantes, la coutume veut qu'on allume le feu dans les cheminées pour les chasser. Cette histoire de lutin farceur s'est d'ailleurs exportée partout à travers le monde et est devenue très populaire sur les réseaux sociaux. Les parents mettent en scène des petites poupées de lutins attendant la nuit pour faire des bêtises et piéger les enfants, et ce, tous les jours jusqu'au soir du réveillon, où elles repartent pour livrer les cadeaux du Père Noël.
Et quand il n'y a plus de fête, il y en a encore, pour le bonheur de tous. Et c'est exactement ce que nous rappelle la Saint-Sylvestre, une célébration qui clôt l'année en beauté à travers une multitude de traditions aussi festives que fascinantes. Dans l'Union européenne, ces coutumes du Nouvel An, souvent empreintes de superstitions et de symbolisme, reflètent la richesse culturelle des pays membres. Et Titouan, tu avais quelques exemples à nous montrer, non ?
Oui, par exemple, l'Espagne et le Portugal, où il est coutume de manger 12 raisins au rythme des 12 coups de minuit, afin de s'assurer bonheur et prospérité pour les 12 mois à venir. Et pour les Pays-Bas, le jour de l'an, environ 10 000 personnes viennent à la plage pour plonger dans la mer froide, dans 89 emplacements sur les plages et dans les lacs de tout le pays. Chaque année, près de 30 000 personnes participent à cette New Year's Week, avec un record de 36 000 participants au 1er janvier 2012.
Eh bien, je vous remercie tous les trois de nous avoir accordé votre temps.
Merci Marie-Louise.
Merci.
Merci.
Et merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et j'en profite Pardon. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous de belles fêtes de fin d'année. Et quant à moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles chroniques. À bientôt.